Morey Live présente
Joey O'B.
Joey O'B.
Joey.
Mon cher Joey! Comment ça va ce matin?
Ça va super bien, toi?
Super bien. Restons où on en est. Les médias veulent vraiment nous garder là-dedans. Le congrès QS. Le congrès QS est fini, mais les médias veulent vraiment continuer de mousser ça. Les médias adorent ces idées-là de taxes sur taxes. Et là, tu veux nous parler de l'argent qui est encore sale aux yeux de beaucoup de Québécois. Les gens détestent le succès, moi, je pense. Il y a beaucoup de jalousie par rapport à ça, au succès. Et quand on voit un parti vouloir s'attaquer au succès, je pense que, pas tous les Québécois, mais il y a des Québécois qui adorent. Pourquoi? Sont jaloux. Jaloux du succès des autres.
Oh oui, absolument. Puis écoute, tu parlais des médias qui moussent ça depuis environ 48 heures. Ils doivent sûrement se dire, enfin, des idées pour lesquelles on est d'accord, on va en parler plus.
T'sais. Oui.
Sommes-nous surpris? Absolument pas. Non, je pense que c'est multifactoriel, sérieusement. Puis c'est un sujet qui est récurrent au cours des décennies, puis on dirait que ça veut pas disparaître. Je sais pas si c'est vraiment... Je pense pas que c'est générationnel tant que ça. Autant que oui, il y a peut-être certaines personnes qui inculquent ça à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, mais je pense que c'est beaucoup répété dans l'espace public. Puis on dirait que c'est comme une sorte de tâche qu'on essaie d'effacer, mais à force de frotter, mais on dirait qu'elle veut jamais nécessairement 100% disparaître. Puis elle finit toujours par revenir un peu. Puis j'aimerais ça faire l'historique avec vous autres ce matin. Tu sais, at large, si on peut dire, tu sais, sans trop être spécifique, mais quand même, tu sais... Le côté vraiment de la haine des riches, la fameuse guerre des clans des riches versus les pauvres, mon Dieu, ça transcende l'histoire de l'humanité. Au-delà du Québec, bien avant son inception, il y a ça, bien évidemment, au fil des millénaires aussi. Ça a commencé avec les esclaves versus leurs maîtres. Après ça, c'était les serfs versus leurs seigneurs. Après ça, ça a été les paysans versus les nobles, le tiers-état versus la noblesse. On connaît tous nos cours d'histoire. Et là, on est rendu justement à la version québécoise de ça depuis, mon Dieu, c'est pas plus d'un siècle, qui, je pensais vraiment, sérieusement, qui commençait à disparaître tranquillement pas vite, cette genre de mentalité-là, subconscience de la haine, ou du moins de la haine du succès, de la haine de l'argent. Puis surtout pour le côté québécois de tout ça, j'étais curieux de savoir d'où c'est que ça venait. Et un qui me pour dire, titiller l'oreille par rapport à ça, qui me pointait vers une piste de solution, c'était Lucien Bouchard, imagine-toi donc. Il avait fait le fameux podcast de François Legault, le « Bonjour tout le monde ».
Oui,
là.
Je me souviens de ça.
Le podcast, à quoi, tu pensais quoi? Tu avais 20-30 000 l'épisode, là, trouvé là, avec le deux chaises et un petit studio, trouvé l'erreur là, au niveau du prix. Mais il avait été dans son podcast et il expliquait que quand il était jeune, Lucien Bouchard, qu'à la fin, je pense que c'était de l'école secondaire, si je ne me trompe pas, il disait à la fin, il y avait une grande célébration avec les parents, le personnel de l'école, les élèves aussi, qui présentaient des rubans de différentes couleurs pour, tout dépendant dans quel métier les élèves s'en allaient. Et bien évidemment, tout le monde applaudissait qu'on nommait leur nom, mettons, Joey O'B s'en va en médecine. Là, tout le monde applaudissait, là, c'était comme c'était un ruban rouge, puis l'autre, c'est un ruban d'une autre couleur. Puis il disait que pour la majorité des grands métiers de l'époque, qui étaient soit médecins, avocat, et même le un qui faisait beaucoup encore très populaire, c'était le sacerdoce, c'était ceux qui s'en allaient vers la prêtrise, c'était vu de manière extraordinaire, les gens applaudissaient. Par contre, les rares qui disaient qu'ils s'en allaient en affaires, ça applaudissait jaune de ce qu'ils nous comptaient, là. T'sais, c'était même vu, mon Dieu, ça va en affaires, sérieux, là. T'sais, c'était quasiment vu comme le quasiment de quoi de Satan, quasiment de quelque chose un peu d'individualiste, aller faire de l'argent pour faire de l'argent, sérieusement, là, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on voit que ça date de loin. Et dans les pistes de solution, de savoir un peu d'où c'est que ça vient, je pense qu'il y a une grosse partie de ça qui est historique au Québec plus précisément. T'sais, on s'en rappelle pas dans les générations qu'on a aujourd'hui, mais à l'époque, ça a été long avant que des propriétaires d'entreprises, propriétaires d'usines, soient les fameux Canadiens français francophones. Pendant longtemps, c'était justement les Anglos qui étaient les chefs d'entreprise et c'était les Francs qui étaient majoritairement les ouvriers. Là, aujourd'hui, c'est quasiment une réalité complètement autre dans le 21e siècle dans lequel qu'on vit. Mais à l'époque, c'était beaucoup ça. Fait que cette sorte de haine du riche-là était entremêlée de cette haine et de lutte genre nationaliste, fédéraliste versus identité québécoise. Autant que ça a fait aider au fil du temps, mais ça s'est comme transformé via, selon moi, notre éducation catholique, du fait que, justement, on prône principalement la pauvreté, de redonner aux autres, qui n'est pas des mauvaises valeurs en soi, soit dit en passant. Mon but, c'est pas de dire que c'est de 100% de la bouillie pour les chats, mais le fait de dire que l'argent est sale, l'argent, ça t'en prend pour survivre, mais faut pas que tu n'ailles trop, puis vouloir aspirer à être plus riche, c'est pas sain pour ton âme et tout ça, faut quand même que tu restes pas dans ta communauté, fait que justement, au fil des siècles, même au fil des décennies, je devrais dire plutôt, on se retrouve avec encore cette haine du riche-là, du fait que, justement, le classique, bien évidemment, si tu vois quelqu'un dans ton quartier qui a acheté une maison, une grande maison à 100% neuve, ou absolument juste avoir le char de l'année ou une décapotable, ben c'est sûr que dans l'arrière-fond de bien des Québécois, on pense que t'es un crosseur, ou ça t'as dû, pardonnez-moi le terme ce matin, mais fourrer quelqu'un quelque part dans le processus pour avoir cet argent-là, pour te permettre ça, faire ça 100% de manière honnête, on dirait que c'est anathème dans le mental québécois pour bien des gens. Et écoute, c'est pas vraiment une lutte ou un sujet qu'on parle nécessairement, qu'on parle souvent depuis des décennies. Jean-Luc Mongrain en parlait dans les années 90, il pétait des coches là-dessus, il avait encore une moustache dans ce temps-là, fait que ça date pas d'hier. Fait qu'on se demande qu'est-ce qui crée tout ça. Et je pense que à travers tout ce que je viens de dire, le côté vraiment tannant de tout ça, c'est qu'on oublie les chiffres, hein. Et t'en parlais beaucoup, je sais que t'en as beaucoup sorti hier dans tes différentes interventions, mais imaginez-vous donc qu'il y a juste 13, en tout cas un petit peu moins de 13% de l'entièreté des Québécois contribuables qui gagnent plus que 100 000 piastres par année. Et autant qu'on pourrait dire que, hey, mon Dieu, il y a 20 ans, 100 000 piastres, t'étais riche, ouais, mais le 100 000, c'est le nouveau 50 000 aujourd'hui avec l'imposition qu'on a au Québec, là. Et je comprends qu'il y en a qui gagnent beaucoup plus cher que ça. Et un peu ce que vous avez dit plus tôt, je pense qu'il y en a beaucoup de cette gang-là, que c'est beaucoup des fonctionnaires aussi, puis ça, étrangement, on dirait qu'ils sont comme muets par rapport à ça, là, tu sais.
Il y a aussi le syndicaliste dans le discours médiatique de la société civile. Je vais le dire comme ça, le discours de la société courante. Je pense que les syndicats n'aident pas beaucoup. Un discours complètement rétrograde. Le prolétariat, les ouvriers. On alimente la haine du riche. On alimente la haine des « compagnies », entre guillemets. On alimente la haine des Américains. On alimente la haine de celui qui fait de l'argent avec le manger. On est beaucoup là-dedans. On alimente la haine de celui qui fait un peu d'argent en vendant des livres. Donc, c'est la succession des conflits de travail derniers, là. C'est-à-dire, Renaud Bré sont allés bloquer des camions de fruits et légumes pour pas que les... C'est IGA, je pense, qui recevait plus de fruits et de légumes. On est beaucoup là-dedans. Faut écouter les discours complètement agressifs et rétrogrades. Moi, je pense qu'eux nous maintiennent au plancher. Les syndicats nous maintiennent au plancher, n'évoluent pas, malheureusement. Oui, ils ont été utiles dans les années 30, 40, 50, notamment la création de la CSST. Ça prenait une limite pour l'âge. On faisait travailler des enfants des usines en Angleterre. Évidemment, ça n'a pas de bon sens. Mon grand-père est mort de la leucémie. Moi, il travaillait pas de masque dans le charbon. Ça n'a ni queue ni tête. Donc, la CSST, ça a évolué. Il y a eu du bon concernant le syndicalisme. Mais le syndicalisme actuel de combat, on a un syndicalisme de combat actuellement. Alors que l'économie est en train d'évoluer à vitesse grand V avec l'intelligence artificielle et tout. Mais nous, on veut garder ça statique avec un discours complètement rétrograde. Et à l'intérieur de ça, il y a la haine du propriétaire. Le méchant propriétaire qui augmente les loyers, le méchant propriétaire qui a des business, il fait de l'argent, donc il devrait donner ses profits à tout le monde. Et ça, ça nous abrutit. Ça, jouxté au fait qu'il n'y a pas de vrai cours d'économie solide à l'école. Oui, oui, il y a l'éducation financière, là. Comment faire son budget, là. Puis comment aller demander un emprunt à la caisse, là. Mais dès le secondaire 1, ça prend ça. Peut-être un peu moins d'art. Oh, qu'est-ce qu'il vient de dire? Le xylophone, moi, je l'ai appris pendant 5 ans au séminaire Sainte-Marie à Chaoui. Et j'en joue pas de fucking xylophone. Tu comprends? Peut-être un peu moins absolument. De plastine, un peu moins de gouache, un peu plus d'économie. Il faut... L'école québécoise aussi n'a pas évolué en fonction de l'évolution de la société. Je regarde le curriculum. Qu'est-ce qui a évolué dans les 30 dernières années au Québec? Ah, OK, on a remplacé éthique et culture religieuse. On a appelé ça par la citoyenneté. Mais le reste, ça n'a pas évolué. Et je comprends qu'il ne faut pas toucher aux maths. Maths français, anglais, ça en apprendrait plus. Citoyenneté, c'est quoi? On peut-tu fouiller là-dedans? On peut-tu faire évoluer davantage l'école? Moi, je pense que c'est tout ça. C'est multifactoriel. Tu as la religion au début qui nous maintenait dans un carcan, puis qui diabolisait la richesse. Mais je pense que syndicats et écoles, je pense qu'on commence bien mal notre vie.
Ah non, c'est ça. Puis écoute, en termes de culture de la jalousie, je pense que les syndicats le font depuis très longtemps par rapport aux gens qui ont des moins. Puis je vous dis pas que 100% de cette lutte-là est injustifiée. Par contre, je trouve vraiment qu'on est vraiment dans l'ultra simpliste, puis on a fait uniquement monter. On ne cherche pas le rationnel, mais davantage l'émotion directe des gens par rapport à ça.
La confrontation.
Exactement. Et le côté drôle de tout ça, c'est justement les syndicats ont un discours encore, je dirais, très pas à jour. Là. Je sais que Dan en parlait il y a une couple de semaines, à quel point ils sont encore avec Windows Vista au niveau des quelque chose du genre avec, par rapport au discours là, très prolétaire. Justement, ils disent défendre le droit des travailleurs. Alors qu'aujourd'hui, écoute, ma génération et celle d'avant moi, on nous a dit, écoutez, premièrement, la sécurité d'emploi, ça n'existera plus. Vous allez parler au moins 3 langues au minimum. Vous allez majoritairement aller à l'université. Vous allez pouvoir travailler partout dans le monde, dépendant du métier que vous voulez faire. Et même les gens qui restent dans une entreprise, c'est plus une carrière. C'est rendu, on appelle ça une expérience d'emploi ou une expérience de travail. Souvent, même un jeune d'aujourd'hui a de la misère à se voir 7, 8, voire 10 ans en avant parce que justement, il fait quelque chose comme ça, il est plus sur le moment présent, tandis que la génération de nos parents, nos grands-parents, ça travaillait 20, 30, 40 ans dans une usine, dans une telle entreprise, puis ça faisait sa vie-là. Fait que c'est pour ça que c'est rendu les travailleurs, surtout dans une société, dans un temps aussi que le savoir, il n'y a rien de plus mobile que ça. Je comprends, il y a encore des gens qui travaillent dans les usines aujourd'hui. Je l'ai fait moi-même de mon côté. Et puis écoute, bien évidemment, il faut protéger ces gens-là. Par contre, je trouve tellement que, justement, on est tellement en retard. Puis ce qui est le plus capoté, c'est que le discours de QS qu'on a entendu en fin de semaine sur justement que QS est le seul parti de gauche, que supposément les 35 dernières années du modèle québécois, c'était uniquement des partis de droite au pouvoir ou une droite néolibérale, puis que la seule raison pourquoi le modèle fonctionne pas, c'est qu'on n'a pas encore mis assez de cash dedans, ou c'est à faute du privé. Mais bon, on dit, c'est le monde parallèle que Jeff parlait il y a aussi longtemps. Tu sais, comment on peut discuter calmement avec des gens qui clairement vivent dans un autre monde que nous? Puis mon but, c'est pas de vouloir les diaboliser. Moi, tout, je serais prêt à jaser puis à débattre avec ces gens-là, anytime, de manière respectueuse. Mais je dire, on a complètement le diagnostic inverse. Nous autres, on voit clairement que le modèle est scrap à cause de la surintervention étatique. Mais les autres, ils disent non, faut aller encore plus loin. Et justement, il ne faut pas créer de la nouvelle richesse, il faut aller la piquer aux autres. Et surtout que c'est ça. Elle en parlait, Ruba Gazal, avec Gérald Filion hier, pour nous dire justement que, mais en fait, on veut qu'ils fassent leur juste part, sur les riches, surtout parce que, à cause de l'état des finances publiques, excusez-moi, ben, not my fucking problem si tu dépenses mon cash tout croche. À toi de faire ton ménage. C'est pas à moi de t'en donner davantage. L'État est rendu, on en parlait dans le podcast hier, moi, Frank Pian, tu sais, l'État est rendu un genre de frère slash cousin gambler qui te colle à toutes les 2 semaines pour te demander un petit peu plus de cash parce qu'il l'a floué aux machines à sous. Excuse-moi, mais c'est ton problème, c'est tes dettes. Moi, je t'ai fait confiance avec un tel montant d'argent que je te donne par année. Fine, faut contribuer à la société, fair enough. Mais pour ce qui est du reste, si t'as des problèmes de dépenses, c'est pas mon problème. À toi de gérer tes shit, je suis désolé. Là. Fait que rendu là, c'est pour ça que les gens sont autant offusqués de tout ça, l'histoire des péages, pour augmenter les taxes municipales, pas encore d'une autre manière. On est tabou complètement parce que justement, on ne reçoit pas les services qu'on a. Puis au lieu de se regarder dans le miroir une fois de temps en temps pour de vrai puis de couper le vrai gras, non, on continue de dire non, ça nous prend toujours un petit peu plus de cash puis il faut encore vous en donner davantage dans la province la plus imposée taxée en Amérique du Nord. C'est insoutenable.
Et les syndicats, juste rappeler le portrait, 85 % des employés du secteur public sont syndiqués. Secteur privé, 23 % Globalement, au Québec, 39 % le plus élevé en Amérique du Nord. Le taux typique de cotisation pour SFPQ, fonction publique, 1,3 % de ton salaire s'en va en cotisation. CSN, 1,8. Grosso modo, c'est entre 1,5 et 1,8. Revenus totaux estimés des cotisations se chiffrent en centaines de millions par année. OK? Centaines de millions. En 2008, c'est pas un chiffre qui est à jour, mais vous pouvez penser qu'il est plus élevé. Là. 800 millions en 2008 en cotisation syndicale totale. On a affaire à des business. Il faut arrêter de s'imaginer que ce sont les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. C'était comme ça en 1938, mais ce n'est plus ça. Plus des 2/3 des cotisations syndicales totales viennent du secteur public et parapublic. Donc voilà, c'est une grosse business.
Du statu quo.
Plus ils ont de syndiqués, plus ils ont d'argent, plus ils ont d'argent, plus ils s'enrichissent, plus ils s'enrichissent, plus ils ont des moyens de faire des manifestations et de prendre la place dans la société. Je veux dire, on s'en sort pas, là. On s'en sort pas, là. Puis à ce moment-là, ben, ils ont parole d'évangile, ils sont très puissants, ils demandent une place à la table, ils sont là. Donc, monopole le discours ou oriente grandement le discours. Mais les citoyens, eux autres, sont représentés par personne. Ils ont de la broue dans le toupette, puis ils vont travailler le matin. Les gens qui sont bien souvent non syndiqués payent. Et c'est comme ça pour l'éternité jusqu'à la fin des temps. Et là, ce à quoi on assiste en terminant, c'est la montée de l'extrême-gauche. Ça, tu l'as. Ce discours-là de QS, cassez-vous pas le bessic, Ocasio-Cortez, ça se passe aux États-Unis actuellement. Ocasio-Cortez va se présenter. Bernie est trop vieux, là, mais va se présenter à l'investiture démocrate. Il y a même Danny qui gère la plus importante ville aux États-Unis. QS gère New York. Mettez-vous ça dans le coco, là. Comme QS a géré Montréal. Donc, on est vraiment rendu loin, là. C'est plus juste du blabla universitaire, la patente, là. C'est épeurant. Le mot de la fin, très rapidement. Très rapidement.
Oui. Ben justement, il faut aussi comprendre aussi qu'à quel point, pour cette gauche-là, il n'y aura jamais de fin en soi. C'est toujours moving the goalpost au prochain objectif. Écoute, j'ai suivi avec passion les deux campagnes de Bernie Sanders, il y a ça 10 ans, en 2016 et en 2020.
Ouais, mais on est rendu à l'époque, plus loin.
Oh, absolument, mais GND copiait son idée de vouloir augmenter le salaire minimum à 15 $. Là, il est rendu à 16 et quelque chose. Là, il veut à 20 $. Comprenez-vous, ça sera toujours un petit peu plus, un
30,
petit peu plus.
30 en Californie, imagine.
Absolument. Fait que rendu là, à toutes les fois qu'on en donne, il en redemande tout le temps. Fait que on sera jamais capable d'être rassasié avec tout ça. Là.
Merci beaucoup, Joey. Ciao.
Yeah, c'est un plaisir.
C'était peur, hein, tout ça. Je lisais ça, puis j'écoutais des podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts politiques américaines. Je ne veux pas comment ça placer les billes pour les midterms. L'axe de gauche a vraiment, vraiment bougé. Là. C'est un mouvement de plaque tectonique occidentale. LFI en France. Vous avez la gauche folle qui a mangé une maudite volée au UK, par exemple. On n'en a pas parlé. Là. Nigel Farage qui a fait un méchant clean-up. Je dois vous dire qu'il est très en danger. Là. Le PM actuel, Keir Starmer, qui se fait brasser pas à peu près par ses propres députés. Il y a quasiment 100 députés de son parti au pouvoir qui demandent à ce qu'il démissionne. Mais vous avez Ocasio-Cortez, toute cette gauche folle-là qui est en train de prendre littéralement le contrôle des démocrates aux États-Unis. Mais les Américains sont pas là, là. C'est pour ça que malgré les déboires de Trump en politique internationale et domestique de ce fait par le prix de l'essence, moi je pense que les Républicains ont encore beaucoup de chances de garder la Maison-Blanche de par ce changement d'axe-là qui est totalement fou, qui n'est pas du tout acheté par les Américains normaux.